Chapitre 8. Au cours du long trajet jusqu'à Genève, j'avais perdu la notion du temps. J'ignorais même quel jour nous étions. Les performances de ma couveuse d'astrophage n'étaient pas à la hauteur des modélisations informatiques, même si j'avais réussi à produire 6 grammes de ces bestioles. J'avais tout essayé, mais le réacteur du porte-avions ne pouvait tout simplement pas générer suffisamment de chaleur pour accélérer la reproduction. Strat ne cessait de répéter qu'elle allait me fournir ce dont j'avais besoin, mais ses promesses étaient vagues et je n'avais toujours rien reçu. Je tapais sur mon ordinateur lorsque le jet privé s'immobilisa devant le terminal. Strat dut me bousculer pour que je cesse de travailler. 3 heures plus tard, nous attendions dans une salle de conférence. Des salles de conférence, toujours. Ma vie se résumait à passer d'une salle de conférence à une autre. Celle-ci était une des plus belles. Il y avait des panneaux de bois partout et une luxueuse table en acajou. La classe, vraiment. Strat et moi ne parlions pas. Je travaillais sur des coefficients de transfert de chaleur pendant qu'elle faisait je ne savais quoi sur son ordinateur. Nous passions bien assez de temps ensemble comme cela, de toute façon. Une femme à l'air sévère finit par nous rejoindre et s'assit en face de Strat.
« Merci de me recevoir, Madame Strat »,
commença-t-elle avec un accent norvégien.
« Inutile de me remercier, docteur Loken », répondit Strat. « Je suis ici contre ma volonté. »
« Ah bon ? » m'étonnai-je en levant les yeux de mon ordinateur. « Je croyais que cette réunion était organisée à votre demande. »
« J'ai accepté parce que j'étais harcelé par 6 chefs d'État »,
expliqua Strat sans jamais détacher son regard de la norvégienne.
« J'ai cédé. »
« Et vous êtes ?»
me demanda Loken.
« Rylan Grace. »«
Le Rylan Grace ?»
s'étonna-t-elle dans un mouvement de recul.
« L'auteur de « L'analyse des hypothèses fondées sur l'eau et un recalibrage des attentes des modèles évolutionnistes ?»«
Pourquoi ? Ça vous pose un problème ?»«
Vous êtes célèbre ?»
s'amusa Strat dans un sourire en coin.
« Tristement célèbre !»
la corrigea Loken.
Cet article immature était une gifle assénée à toute la communauté scientifique. Cet homme travaille pour vous.
C'est absurde.
Toutes ces hypothèses sur la vie extraterrestre se sont révélées fausses.
Hé ! Protestai-je en fronçant les sourcils. J'affirme que l'eau n'est pas nécessaire à l'apparition de la vie. Le fait que nous en ayons trouvé une forme qui utilise l'eau ne prouve rien du tout.
Bien au contraire. Deux formes de vie ont évolué de façon indépendante pour...
Indépendante ! Gloussai-je. Vous êtes cinglé, ma parole.
Vous pensez réellement que quelque chose d'aussi complexe qu'une mitochondrie a pu évoluer de la même manière 2 fois ?
Il s'agit manifestement d'un exemple de panspermie. Elle balaya mon argument d'un geste dédaigneux de la main, comme si j'étais un vulgaire insecte.
Les mitochondries de l'astrophage sont très différentes de celles que l'on trouve sur Terre. Elles ont évolué séparément, c'est une évidence.
Elles sont identiques à 98%.
Intervint Strat. Je ne comprends rien à ce que vous racontez, mais ne pourrions-nous pas...
Cet imbécile pense que les astrophages ont évolué indépendamment, alors que leur lien de parenté avec la vie sur Terre est évident. Grondai-je en pointant Loken de l'index.
C'est fascinant, mais comment un ancêtre commun aurait-il pu traverser l'espace interstellaire ?
Protesta la femme en frappant sur la table. L'astrophage le fait bien aujourd'hui.
Dans ce cas, pourquoi n'avons-nous pas découvert cette vie interstellaire depuis longtemps ?
Insista-t-elle en se penchant vers moi. Aucune idée, répondis-je en me penchant vers elle. La faute a pas de chance.
Et comment expliquez-vous les différences dans les mitochondries ?
4 milliards d'années d'évolution divergente.
Bon, ça suffit maintenant,
intervint Strat avec calme.
Si je comprends bien, c'est à celui qui pissera le plus loin, c'est ça ? Ce n'est pas la raison de notre venue. Dr. Grace, Dr. Loken, asseyez-vous, je vous prie.
Je me laissai tomber sur ma chaise et croisai les bras. Loken se rassit aussi.
Docteur Loken, vous avez harcelé plusieurs gouvernements pour qu'ils me harcèlent. commença Strat en jouant avec un stylo.
« Vous n'avez pas arrêté, tous les jours. Je sais que vous voulez contribuer au projet Dernière Chance, mais je n'ai pas très envie de faire de notre entreprise un chaos international. Nous n'avons pas de temps à perdre en politique aérie. Les gros projets finissent souvent par devenir des objets de convoitise et de rivalité, ce qui est hors de question dans le cas présent, évidemment.
Croyez-moi, je ne suis pas très heureuse non plus d'être ici. Ni vous ni moi n'avions le temps, cependant, car je devais absolument vous ouvrir les yeux sur une faille majeure dans le projet Dernière Chance.
Nous avons envoyé ces études préliminaires pour obtenir des avis différents, pas pour être convoqués à Genève.
Ça tombe bien, je suis ici pour vous donner mon avis.
Un courriel aurait suffi.
Vous l'auriez effacé.
Vous devez m'écouter, Strat, c'est très important.
Strat fit tournoyer son stylo plusieurs fois avant de reprendre la parole.
Eh bien, je suis ici. Je vous écoute.
Loken s'éclaircit la voix.
Corrigez-moi si je dis une bêtise, mais le Dernière Chance est censé être un laboratoire, non? Un laboratoire que l'on enverra autour de Tau Ceti afin de déterminer pourquoi cette étoile, et elle seule, semble immunisée contre les astrophages.
Vous ne dites pas de bêtises.
Loken hocha la tête.
Vous serez donc d'accord avec moi si je dis que le laboratoire sera l'élément le plus important du vaisseau.
Absolument. Sans lui, la mission n'aurait pas de sens.
Dans ce cas, nous avons un grave problème.
Loken sortit plusieurs feuilles de papier de son sac à main.
J'ai une liste des équipements de laboratoire dont vous aurez besoin. Des spectromètres, des séquenceurs d'ADN, des microscopes, de la verrerie de laboratoire.
« Je connais cette liste, » l'interrompit Strat. « Je l'ai même validée. »
Une grosse partie de ces équipements ne fonctionnera pas en apesanteur, »
affirma Loken en laissant tomber ses feuilles sur la table.
« Nous y avons pensé, évidemment, »
contesta Strat en levant les yeux au ciel.
« À l'heure où nous parlons, des sociétés du monde entier travaillent sur des versions de ces équipements compatibles avec l'absence de pesanteur. »
Vous avez une idée de la recherche et du développement qui ont été nécessaires pour inventer le microscope électronique à balayage? Et le chromatographe? Et tout ce qu'il y a sur cette liste? Un siècle de progrès scientifique, d'échecs et de tâtonnements. Et vous imaginez que vos versions adaptées à l'apesanteur fonctionneront du premier coup?
Nous n'avons pas le choix. À moins que vous ayez inventé l'apesanteur artificiel.
« Nous avons inventé l'apesanteur artificielle, » affirma Loken. « Il y a longtemps. »
Strat me lança un regard. Elle était manifestement prise de court.
« Je crois qu'elle parle d'une centrifugeuse, » dis-je.
« Je sais. Qu'est-ce que vous en pensez ?»«
Je n'y avais pas réfléchi. Ça pourrait marcher, j'imagine. »«
Non, »
rétorqua Strat en secouant la tête. « Ça ne marchera pas. »
Nous devons faire simple, aussi simple que possible. Un navire gros et solide, avec un minimum d'éléments mobiles. Plus il sera compliqué, plus le risque de panne sera grand.
Cela vaut la peine d'essayer, reprit Loken.
Il faudrait ajouter un énorme contrepoids aux dernières chances pour que cela fonctionne,
ajouta Strat en faisant la moue.
Je suis désolé. Mais nous avons à peine assez d'énergie pour produire les astrophages nécessaires à la propulsion de la masse initialement prévue. On ne peut pas la doubler comme ça.
Attendez,
intervins-je.
On a assez d'énergie pour produire tout le carburant?
Depuis quand?
Nous n'aurons pas besoin d'ajouter de la masse,
affirma Loken en sortant une autre feuille de papier de son sac et en la claquant sur la table.
Si on prend le plan actuel, et qu'on sépare la partie habitable des réservoirs de carburant, les masses respectives des deux moitiés permettront un mouvement centrifuge.
Strat examina le plan.
Et vous mettez tout le carburant du même côté? Cela représente quand même 2 millions de kilos.
Non, la contrai-je en secouant la tête. Il n'y aurait plus de carburant.
Les deux femmes me regardèrent.
C'est une mission suicide, repris-je. Le temps d'arriver à Tau Ceti, il n'y aura plus de carburant. Si on divise en deux le vaisseau comme Loken le propose,
l'arrière pèsera environ 3 fois plus que l'avant.
C'est un rapport de masse convenable pour une centrifugeuse. Ça pourrait marcher.
Merci, dit Loken.
Comment divise-t-on un vaisseau en deux ?
S'enquit Strat.
Comment le transforme-t-on en centrifugeuse ?
Loken retourna sa feuille, révélant une image détaillée du carénage situé entre les deux moitiés.
Il y aurait des bobines de câbles en zylon entre le compartiment accueillant l'équipage et le reste du vaisseau. Avec 100 mètres de câbles, on pourrait simuler une pesanteur de 1 g.
Strat se pinça le menton. Loken aurait-elle réalisé l'exploit de lui faire changer d'avis ?
Je n'aime pas la complexité, dit-elle. Je n'aime pas le risque.
Ce système est le contraire de la complexité et du risque, la rassura Loken.
Le cœur de cette mission, ce sera le laboratoire.
Le navire sera construit autour de lui, l'équipage sera choisi pour lui, les astrophages l'emmèneront là où il doit aller. Nous avons clairement besoin de matériel fiable, d'équipements utilisés depuis des années, avec lesquels on a passé des millions d'heures aux quatre coins du monde. De systèmes dont le moindre défaut a été éliminé depuis longtemps.
Si on obtient 1 g de pesanteur, la fiabilité sera optimale, car les instruments ont été conçus pour ce type d'environnement.
Fit Strat.
Grace, qu'en pensez-vous ?
Je crois que c'est une bonne idée.
Sérieusement ?
Oui. On va déjà devoir concevoir un vaisseau qui sera capable d'encaisser une accélération de 1,5 g pendant 4 ans. Ce sera du solide.
Cela ne risque-t-il pas d'inverser la pesanteur de la partie habitée ?
Elle avait raison. Le dernier chance avait été conçu de sorte que le bas se trouve vers les moteurs. Quand le vaisseau accélérait, ou l'inverse, grâce à la propulsion, l'équipage était poussé vers le bas, le sol de l'habitacle. Dans une centrifugeuse, cependant, le bas se trouve à l'opposé du centre de rotation. L'équipage serait donc poussé vers le nez de l'appareil.
Oui, ce serait un problème si on ne prévoyait pas un correctif, répondit Loken en posant l'index sur le schéma.
Les câbles n'étaient pas directement fixés à la partie habitée, mais à 2 larges disques situés de part et d'autre de celle-ci.
Les câbles, reprit-elle, sont attachés à ces 2 grosses charnières qui permettent à l'avant du vaisseau de pivoter à 180 degrés. En mode centrifugeuse, le nez de l'appareil est tourné vers l'intérieur, vers les moteurs. Ainsi, dans le compartiment dédié à l'équipage, la pesanteur poussera celui-ci à l'opposé du nez, exactement comme lorsque les moteurs fonctionnent.
Cela me semble bien compliqué, protesta Strat en assimilant l'explication.
En plus, vous scinderiez le vaisseau en 2. Vous pensez sincèrement que ce serait moins risqué ?
Bien moins risqué que d'utiliser des équipements insuffisamment testés, lui répondis-je. J'ai travaillé avec du matériel sensible toute ma vie, vous savez. Il est capricieux et délicat, même dans des conditions idéales.
Strat reprit son stylo et tapota plusieurs fois sur la table.
D'accord, faisons-le.
Excellent, s'exclama Loken en souriant. Je vais mettre tout ça au propre et envoyer le projet à l'ONU. On formera un comité et...
Non, l'interrompit Strat. J'ai dit que nous allions le faire. Vous êtes avec nous maintenant, docteur Loken. Faites votre sac et rejoignez-nous au terminal 3 de l'aéroport de Genève. Nous avons un avion privé appelé Strat.
Quoi ?
Je travaille pour l'ESA. Je ne peux pas...
« Ne vous fatiguez pas, » intervins-je. « Elle va appeler votre patron ou le patron de votre patron, et vous finirez par nous rejoindre. Vous venez d'être enrôlé. »«
Je ne proposais pas mes services, » s'emporta Loken. « Je voulais simplement... »«
Il ne s'agit pas de volontariat, » expliqua Strat.
« Je me moque que vous ayez ou non proposé vos services. »«
Vous ne pouvez pas m'obliger à travailler pour vous. »
Strat, cependant, était déjà en train de quitter la pièce.
Soyez à l'aéroport dans 1 heure, ou j'envoie la gendarmerie suisse vous chercher chez vous. À vous de voir.
Incrédule, Loken fixa le sol du regard, puis se tourna vers moi. On finit par s'y habituer, la rassurai-je.
Le vaisseau est une centrifugeuse. Je me souviens de tout maintenant. Voilà la raison d'être du carénage central. Il abrite les bobines de câbles en zylon. Le navire peut se séparer en deux et tourner sur lui-même, tandis que l'habitacle peut pivoter à 180 degrés. Le carénage que j'ai dû enjamber pendant mon AEV. Voilà l'endroit où le navire se sépare. Je me rappelle le plan désormais. Deux grosses charnières sous l'anneau permettent à l'habitacle de pivoter avant que la centrifugeuse soit activée. Cela me rappelle étrangement les vaisseaux Apollo. L'alunisseur était attaché sous le module de commande pendant le décollage, et puis les deux se sont séparés, et le module de commande s'est retourné avant de se raccrocher à l'alunisseur pendant le trajet vers la Lune. C'est le genre de chose qui peut paraître ridicule a priori, mais est en réalité la solution la plus efficace. Je retourne en flottant dans la salle de contrôle, où j'examine les moniteurs un à un, cherchant quelque chose de bien particulier. Enfin, je trouve la dernière page, celle dédiée à la centrifugeuse. Elle se cachait dans un sous-menu de l'écran support vie. L'affichage est assez simple en réalité. Il montre le lacet, le tangage, le roulis, l'état actuel du vaisseau, comme sur le panneau de navigation. Il y a également une fenêtre séparée pour l'angle du compartiment équipage. Elle contrôle le pivotement de la moitié supérieure du vaisseau. Chacun des écrans affiche 0 degré par seconde. En dessous, il y a un bouton « Démarrer mode centrifuge » et sous ce bouton, des chiffres liés à l'accélération de la rotation, la vitesse finale, le rythme du débobinage des câbles, la pesanteur estimée au niveau du plancher, 4 fenêtres différentes pour l'état des bobines, il y a apparemment 2 bobines de chaque côté, les protocoles à suivre en cas de problème et tout un tas de choses que je ne ferai pas semblant de comprendre. Comment ne pas aimer les ordinateurs? Ils réfléchissent à notre place. Je regarde de plus près le protocole d'urgence, où j'avise une commande « Désactiver mode centrifuge ». Je tapote dessus, faisant apparaître un menu déroulant. Apparemment, je peux choisir entre « Ralentir rotation »,« Arrêter bobine » et « Séparer » en rouge. Je suis à peu près certain de ne pas choisir ce dernier. Ralentir rotation est une expression assez transparente. J'imagine qu'il s'agit de freiner progressivement la rotation du vaisseau en cas de problème. Le genre de truc qui pourrait servir. Je décide de laisser ce choix affiché. Alors que je suis sur le point de démarrer la centrifugeuse, j'hésite. Tout est-il bien attaché? N'est-il pas dangereux de soumettre le vaisseau à ses forces? Je balaye mes inquiétudes. Le navire a accéléré constamment pendant plusieurs années. Un peu de force centrifuge ne peut pas lui faire de mal, si? Si? Comme des centaines d'astronautes avant moi, je remets ma vie entre les mains des ingénieurs qui ont conçu ces systèmes. De la docteur Loken. Je croise les doigts pour qu'elle ait bien fait son boulot. J'appuie sur le bouton. D'abord, rien ne se produit. Je me demande même si j'ai bien appuyé ou si j'ai mal visé, comme cela m'est arrivé si souvent avec mon smartphone. Soudain, une alarme résonne dans tout le vaisseau, 3 bips suraigus se répétant toutes les quelques secondes. Impossible pour un membre d'équipage de manquer pareil signal. Un ultime signal, au cas où l'équipage serait dans l'impossibilité de communiquer. Au-dessus de ma tête, l'écran du pétrovascope se verrouille. Cela confirme ce que je pensais. Les moteurs auxiliaires servant à manœuvrer le vaisseau fonctionnent aussi avec des astrophages. C'est logique quand on y pense, mais je ne pouvais pas en être sûr. L'alarme se tait, mais rien ne se produit. Je remarque alors que je me suis rapproché de l'écran de navigation. J'ai dérivé vers le bord de la salle. Je tends le bras pour me stabiliser et revenir vers le centre. Mais je m'approche encore de l'écran de navigation. Oh ! Cela a commencé.
Je ne dérive pas vers le bord de la salle. Le cockpit tout entier se rapproche de moi. Le navire commence à tourner. Le décor est en train de virer, de changer de direction. Comme le vaisseau tourne, l'habitacle est en train de pivoter. Ma situation risque de se compliquer. D'accord. Je prends appui sur le mur et me projette vers le siège du pilote. Je bascule. Ou plutôt, c'est la salle qui bascule. Non, c'est complètement idiot. Rien ne bascule. Le vaisseau tournoie de plus en plus vite. L'accélération s'intensifie. L'avant du vaisseau s'est séparé de l'arrière et tourne sur ses deux grosses charnières. Lorsque la manœuvre sera terminée, le nez de l'appareil pointera vers les moteurs. Tout cela se passe simultanément. Aussi, les forces que je subis sont-elles vraiment bizarres et compliquées. Mais je ne devrais pas m'en préoccuper. C'est le problème de l'ordinateur. Je regarde le moniteur de la centrifugeuse. Le tangage est de 0,17 degrés par seconde. Une autre fenêtre, appelée « séparation des composants », affiche 2,4 mètres. J'entends un nouveau bip et la fenêtre « angle compartiment équipage » clignote, affichant 180 degrés. Je présume que la séquence a été étudiée pour protéger au maximum le matériel et les membres d'équipage. Je ressens une légère pression sur les fesses comme le fauteuil vient à ma rencontre. La transition est fluide. La pesanteur augmente très graduellement, de même que l'inclinaison de la salle. C'est une sensation étrange. Je sais que je suis à bord d'un vaisseau en train de tourner sur lui-même, mais il n'y a pas de hublot ouvert sur l'extérieur. Seulement des écrans. Je me tourne vers l'écran du télescope, toujours focalisé sur le spot A. Les étoiles en arrière-plan ne bougent pas. Les systèmes semblent annuler l'effet de la rotation. Le codage du logiciel concerné n'a pas dû être facile, d'autant que la caméra n'est probablement pas le centre de la rotation. Mes bras s'alourdissent, aussi les posais-je sur les accoudoirs. Je suis de nouveau contraint de me servir des muscles de mon cou. 5 minutes après le début de la séquence, je ressens une pesanteur légèrement inférieure à celle de la Terre. 4 bips sonnent la fin du processus. Je vérifie le moniteur de contrôle de la centrifugeuse. Le tangage est de 20,71 degrés par seconde, la séparation de 104 mètres et la pesanteur du labo a atteint 1G. Le diagramme du vaisseau montre le dernier chance séparé en deux, le nez de la partie supérieure tourné vers l'arrière. Les deux moitiés sont très éloignées l'une de l'autre. C'en est comique. La structure tout entière tourne lentement. Vite, en réalité, mais l'échelle fait qu'on se rend mal compte. Je défais mes sangles, marche jusqu'au sas et ouvre la porte. L'odeur d'ammoniac se répand dans la salle, mais elle est moins forte désormais. L'artefact extraterrestre est posé sur le sol. Je le touche furtivement du bout du doigt pour en jauger la température. Il est toujours chaud, mais il n'est plus brûlant. Bien. Il ne contient pas une source de chaleur, donc. Il était simplement extrêmement chaud lorsqu'il a été lâché. Je m'en saisis. Il est temps de voir de quoi il est constitué et ce qu'il y a à l'intérieur. Avant de quitter la salle de contrôle, je jette un dernier coup d'œil vers l'écran du télescope. Sans raison particulière, simplement parce que je préfère savoir ce que fait ce vaisseau extraterrestre si proche de moi. Le spot A tournoie dans l'espace. Il décrit un mouvement de rotation dont le rythme est probablement calqué sur celui du dernier chance. Peut-être m'ont-ils vu activer la séquence et ont-ils décidé de m'imiter à des fins de communication. Le premier malentendu avec une espèce extraterrestre intelligente. Heureux d'y avoir contribué. Je pose le cylindre sur la table du labo. Par où commencer? Partout à la fois. Je vérifie s'il est radioactif à l'aide d'un compteur Geiger. Il ne l'est pas, tant mieux. Je le pique avec différents accessoires pour tester sa dureté. Il est dur. Cela ressemble à du métal, sans tout à fait en avoir la texture. J'utilise un multimètre pour voir s'il est conducteur. Il ne l'est pas. Intéressant. Je dégote un marteau et un ciseau. J'ai besoin d'un tout petit morceau de ce matériau pour le chromatographe. Ainsi, je connaîtrai les éléments qu'il compose. Après quelques coups de marteau, le ciseau est tout émoussé et le cylindre n'a pas une égratignure. Comme il est trop gros pour entrer dans le chromatographe, je m'arme d'un spectromètre à rayon X portable. On dirait un scanner de code-barre. Il est facile à utiliser et me donnera une idée de ce qui constitue le cylindre. Ce n'est pas aussi précis qu'un chromatographe, mais c'est mieux que rien. Après un scan rapide, l'appareil me dit que l'artefact est fait de xénon. Quoi ? Je pointe le spectromètre vers la table en acier du labo pour m'assurer qu'il fonctionne correctement. Fer, nickel, chrome, etc. Tout est normal. Je réessaye sur le cylindre et j'obtiens le même résultat bizarre que la première fois. Je réessaye trois fois et c'est chaque fois la même chose. Pourquoi ai-je insisté à ce point ? Parce que ce résultat n'était pas crédible. Le xénon est un gaz noble. Il ne réagit avec rien. Il ne crée des liaisons avec rien. Normalement, à cette température ambiante, c'est un gaz, non pas un matériau solide. Et non, ce n'est pas un cylindre empli de xénon ou quelque chose comme ça. Le spectromètre ne scanne pas en profondeur. Il ne dit que ce qu'il y a à la surface. Si je le pointais vers un bijou en nickel plaqué or, il afficherait 100% or. Il ne peut identifier que les molécules qui sont à la surface de l'objet. Apparemment, celui-ci serait constitué de xénon. Ce spectromètre manuel est incapable de détecter les éléments de numéro atomique inférieur à celui de l'aluminium. Il pourrait très bien y avoir du carbone, de l'hydrogène ou de l'azote là-dedans. Parmi les éléments détectables par le spectromètre, il n'y a donc que du xénon pur. Mais comment ? Je m'affaisse sur un tabouret sans lâcher le cylindre des yeux. Quel étrange artefact ! Comment appelle-t-on un gaz noble qui réagit avec d'autres éléments ? Un gaz ignoble ? Je suis sidéré, mais cela a de bon côté. Par exemple, je cesse de m'acharner sur l'objet pour l'observer calmement. Pour la première fois, je remarque une ligne mince située tout autour de l'objet, à environ 2 cm d'une de ses extrémités. Je la teste avec l'ongle, il y a bien un creux. S'agit-il d'un couvercle ? J'attrape l'objet et je tire sur le couvercle. Rien ne bouge. J'essaie de le dévisser sans plus de succès. Comme il n'y a aucune raison pour que des extraterrestres respectent la règle du « je desserre dans le sens contraire des aiguilles d'une montre », je tourne dans l'autre côté et là, le couvercle bouge. Mon cœur manque un battement. Je tourne encore, et lorsque le couvercle a décrit 90 degrés, je le sens se détacher. Je sépare les deux parties. Des deux côtés, il y a des trucs compliqués à l'intérieur, on dirait des maquettes. Dans les deux parties, des tiges fines comme des cheveux partent du fond et se terminent par des sphères de tailles diverses. Je ne vois aucune partie mobile, et tout paraît constitué du même matériau que le cylindre lui-même. J'examine d'abord la partie inférieure. Il faut bien commencer quelque part. À l'extrémité d'une mince tige, j'avise une structure abstraite, une sphère de la taille d'une bille et une autre encore plus petite, maintenue en place par des fils plus fins partant du tronc vertical. Les points supérieurs des deux boules sont reliés par une étrange parabole. Tout cela me dit quelque chose, mais quoi ? Et pourquoi ? La ligne de Petrova, m'exclamai-je. Cet arc, je l'ai vu suffisamment de fois pour le connaître par cœur. Mon pouls s'emballe. Je suppose que tu es une étoile, dis-je en désignant la plus grosse sphère. Et la petite est une planète.
Les extraterrestres connaissent donc les astrophages. Ou la ligne de Petrova, en tout cas. Je m'en doutais, à dire vrai, puisque leur vaisseau se propulse grâce aux astrophages. En plus, nous nous trouvons dans un système solaire possédant une ligne de Petrova. Peut-être bien leur système. C'est un bon début. Nous avons commencé notre conversation en faisant tourner nos moteurs. Ils savent que j'utilise les astrophages et que je distingue, avec l'aide du vaisseau, la fréquence de Petrova. D'où ils ont conclu que j'étais capable de voir la ligne de Petrova. On a affaire à des malins. J'examine l'autre partie du gadget. Des dizaines de tiges partent du fond. Elles sont de longueur variée et se terminent par des boules mesurant moins d'un millimètre de diamètre. J'appuie sur une tige avec le bout de mon index et elle ne ploie pas. J'appuie de plus en plus fort jusqu'à ce que l'objet tout entier glisse sur la table. Compte tenu de leur minceur, ces tiges sont bien trop solides. Apparemment, le xénon permet d'obtenir des matériaux très résistants quand on sait comment le faire réagir avec d'autres éléments. Cela me frustre tellement. J'ai un cœur tendre de scientifique, vous comprenez. Je dois me recentrer car je n'ai pas fini mon boulot. Je compte 31 tiges et autant de boules. Quelque chose de bizarre attire mon attention. Au centre exact du disque se dresse une tige légèrement différente. Je la regarde de plus près en plissant les yeux. À son extrémité, deux sphères de taille différente reliées par un arc. D'accord, je crois comprendre. Il s'agit d'une très petite réplique de la ligne de Petrova représentée par l'autre moitié du contenu, à l'échelle 1/20 à peu près. Je constate ensuite que cette réplique est reliée à une autre sphère, située sur une autre tige, par un arc plus fin encore. Une nouvelle ligne de Petrova. Je scrute la maquette pour déterminer s'il y en a d'autres, mais je n'en vois aucune. Il n'y a que celle du milieu, reliée à la seconde plus petite. Attends une minute. Attends. J'ouvre le tiroir qui abrite l'ordinateur du labo. Le moment est venu de faire bon usage de cette banque de données quasi infinie. Je trouve un grand tableur que je transfère sur Excel, Strat aime les produits standards, afin d'y effectuer quelques calculs. Bientôt, j'obtiens la représentation graphique dont j'avais besoin. Tout concorde. Des étoiles. Les petites sphères à l'extrémité des tiges sont des étoiles. Évidemment. Où trouver une ligne de Petrova, sinon? Mais ce ne sont pas n'importe quelles étoiles, bien au contraire. Leur position relative par rapport à Tau-Ceti qui se trouve au milieu est parfaite. Le point de vue de la carte, cependant, est un peu bizarre. Pour que les sphères correspondent à mes données, je dois pencher le gadget à 30 degrés et le faire pivoter légèrement. C'est normal. Sachant que nos données sont fondées sur le plan orbital de la Terre, sur notre point de référence. Des gens vivant sur une autre planète possèdent forcément un autre système de coordonnées. Mais peu importe la manière dont il faut considérer le gadget, le résultat est le même. Le cylindre est une carte des étoiles environnantes. Je m'intéresse spécialement au filament qui relie la sphère centrale, Tau-Ceti, à une autre sphère. J'utilise mon catalogue pour identifier l'étoile en question, 40 Eridani. Je parie que c'est la patrie de l'équipage du Spot A. J'ai déchiffré le message. Nous sommes originaires de 40 Eridani et nous sommes venus à Tau-Ceti. Il n'y a pas que cela cependant. Mes amis extraterrestres me disent « 40 Eridani a une ligne de Petrova, tout comme Tau-Ceti. » Je m'interromps le temps d'assimiler ces informations. Serions-nous dans le même bateau? Évidemment. Les astrophages s'attaquent à toutes les étoiles voisines. Ces gens viennent d'une planète orbitant autour de 40 Eridani, laquelle est infestée tout comme notre Soleil. Leurs connaissances scientifiques sont au moins dignes des nôtres, puisqu'ils ont fait le voyage comme moi pour voir ce qui permettait à Tau-Ceti de s'en tirer mieux que nos étoiles respectives. Nom d'une pipe en bois.
J'en tire une conclusion un peu hâtive. Peut-être ces extraterrestres exploitent-ils les lignes de Petrova. Peut-être même ont-ils inventé les astrophages. Peut-être trouvent-ils les lignes de Petrova jolies, tout simplement. Il y a une infinité d'explications possibles, mais l'une d'entre elles me semble néanmoins plus plausible que les autres, en dépit de ma partialité. Ils sont ici pour trouver une solution. Des extraterrestres. De vrais extraterrestres. Des extraterrestres venus de 40 Éridanies. Comment doit-on dire? Des Éridaniens? C'est un peu long, peut-être. Difficile à mémoriser. Des Éridans? Non. Des Éridiens? Alors? Cela sonne un peu comme Iridium, le nom le plus cool de la table périodique des éléments. Oui, je vais les appeler les Éridiens. Je crois savoir comment leur répondre. Il y a quelques jours de cela, j'ai consciencieusement fouillé le laboratoire. Il y a un kit d'électronique dans un tiroir. Reste à se rappeler lequel. Je ne m'en souviens pas, évidemment. Je cherche donc pendant un long moment en me retenant tout juste de jurer, mais je finis par mettre la main dessus. Je n'ai pas de xénonite. C'est le nom que j'ai donné à l'étrange alliage extraterrestre et personne n'est là pour m'en empêcher. Mais je dispose d'un fer à souder et d'un rouleau d'étain. Je coupe un morceau de ce dernier que je soude à la sphère représentant Tau-Ceti. À mon grand soulagement, le métal adhère. On ne sait jamais avec la xénonite. Je vérifie une, deux, trois fois que j'ai bien identifié Sol, notre soleil, avant d'y souder l'autre extrémité de mon fil. Je cherche partout et je trouve de la paraffine solide. Avec un peu de feu et de menus jurons, je parviens à reproduire la ligne de Petrova qu'ils m'ont envoyée et à la coller sur Sol. Le résultat n'est pas très beau, mais on voit où je veux en venir. Il devrait comprendre. J'examine mon œuvre. Les lignes élégantes de la maquette sont gâchées par l'ajout de pâté de fil à souder et de cire. Un peu comme si on avait ajouté des traits au crayon de couleur sur un tableau de Léonard de Vinci. J'essaye de revisser les deux parties du cylindre, mais je n'y arrive pas. J'insiste, mais elle refuse de s'assembler. Et puis je me souviens que les Éridiens vissent dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Je m'astreins donc à tourner dans ce qui est pour moi le mauvais sens, et cette fois cela fonctionne. Le moment est venu de leur renvoyer la balle. Poliment. Sauf que je ne peux pas, vu que le vaisseau tourne sur lui-même. Si j'essayais de sortir dans le sas, je serais projeté dans l'espace. J'attrape le cylindre et je monte dans la salle de contrôle. Je me sangle au fauteuil du pilote et désactive la rotation du navire. Comme la première fois, la pièce penche, quoique pas du même côté. Elle ne penche pas en réalité, c'est juste ma perception de l'accélération latérale. Mais peu importe. Je sens la pesanteur qui diminue, et puis la salle cesse de pencher, et je commence à flotter. Cette fois, je ne suis pas désorienté. Mon cerveau reptilien s'est fait à l'idée que la pesanteur peut disparaître à n'importe quel moment. L'opération se conclut par un clang. L'habitacle s'est remis dans le bon sens et s'est accroché à la partie arrière du vaisseau. Je retourne dans la combinaison d'AEV, je me saisis du cylindre et je sors de nouveau dans l'espace. Je n'ai pas besoin de progresser sur la coque du vaisseau cette fois, aussi me contentais-je de fixer mon filin de sécurité dans le sas. Le spot A a cessé de tourner. Sans doute s'est-il immobilisé en même temps que le Dernier Chance. Et il est toujours à 217 mètres. Pas besoin d'être Joe Montana pour faire cette passe. Il me suffit de lancer doucement le gadget en direction du spot A. 2 mètres par seconde suffisent, la vitesse d'un petit trot. C'est aussi une manière de communiquer, de dire à mes nouveaux amis que je peux m'accommoder de livraison un peu plus rapide. Comme le cylindre vole vers le spot A, je retourne dans mon vaisseau. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis, comme on dit. Si les astrophages sont vos ennemis, alors nous sommes amis.
Je fixe du regard l'écran du télescope. De temps à autre, je regarde ailleurs. Parfois, je joue au solitaire sur le panneau de navigation. Il ne s'écoule jamais plus de quelques secondes avant que je jette un coup d'œil au télescope, cependant. Une paire de gants épais dégotés plus tôt dans le labo tente de s'échapper en flottant. Je la rattrape et la coince derrière le fauteuil du pilote. Cela fait 2 heures et mes amis extraterrestres n'ont rien trouvé à me dire. Attendent-ils que je reprenne la parole? Je viens de leur dire de quelle étoile je venais. C'est à leur tour maintenant. Le « chacun son tour » a-t-il un sens pour eux? Ou est-ce un concept purement humain? Et si les Iridiens, ayant une espérance de vie de 2 millions d'années, attendaient systématiquement 1 siècle avant de répondre? Comment vais-je me débarrasser de ce 7 rouge sur ma pile de droite? Je n'ai pas de 8 noirs et... Un mouvement! Je pivote si vite vers le moniteur du télescope que mes jambes flottent devant moi. Un autre cylindre est en route. Le robot à plusieurs bras qui se déplace sur les rails du navire extraterrestre a dû le lancer quelques secondes plus tôt. Je vois sur l'écran radar que le spot B fonce vers moi à plus d'un mètre par seconde. Je n'ai que quelques minutes pour m'équiper. Je retourne dans la combinaison d'AEV et dépressurise le sas. Dès que j'ouvre la porte extérieure, j'avise le cylindre qui arrive en tournant dans le sens de la longueur. Peut-être est-ce le même que la fois précédente, peut-être pas. Cette fois, ils se dirigent tout droit vers le sas. Ils ont sans doute vu par où je sortais et ont décidé de me faciliter la tâche. Sympa de leur part. Sympa et précis. 1 minute plus tard, le cylindre arrive au centre du sas et je le rattrape sans problème. Je fais un signe de la main au spot A avant de fermer la porte. Ils ne comprendront pas, c'est sûr, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Je retourne dans la salle de contrôle et m'extrais de la combinaison, laissant le cylindre flotter près du sas. L'odeur d'ammoniac est puissante, mais cette fois j'y suis préparé. J'attrape les épais gants de laboratoire et me saisis de l'objet, dont je sens la chaleur, même au travers des gants ignifugés. Je devrais attendre que le cylindre refroidisse, je le sais, mais je ne peux pas. Il ressemble en tout point au premier. Je l'ouvre en le dévissant dans le mauvais sens. Cette fois, ce n'est pas une carte stellaire, mais un autre genre de maquette. Que suis-je en train de regarder? Sur une tige unie est juchée une forme irrégulière. Non, 2 formes irrégulières sont reliées par un tube. Hé, attendez! Une des formes est le dernière chance. Oh! Et l'autre est le spot A. Les modèles réduits n'ont pas de détails, ni de texture, mais ils sont suffisamment ressemblants pour qu'on ne s'y trompe pas. Le dernier chance mesure 7 cm de long, tandis que le spot A mesure près de 20 cm. Waouh ! Oh, ce vaisseau est énorme ! Et le tube qui les relie ? Il est connecté à mon sas, et au centre du segment en forme de diamant du spot A. Le tunnel est tout juste assez large pour couvrir la porte de mon sas. Ils veulent qu'on se rencontre.